les 20 ans de l'OQAI, le logement, un déterminant de notre santé.
Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent au colloque organisé à l'occasion des 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. C'est la session logement, un déterminant de notre santé que nous retrouvons maintenant. La crise sanitaire que nous traversons, les différents confinements ont rappelé à tous, s'il le fallait, de manière flagrante, l'importance du confort et de la qualité des logements sur notre santé et notre bien-être. Et parmi les critères déterminants, bien sûr, la qualité de l'air intérieur. Un enjeu dont l'importance est reconnue au niveau international et nous espérons que le docteur Marianne Hera, directrice du département santé publique et exposition et environnement à l'OMS nous rejoindra tout à l'heure pour nous en parler, mais j'accueille en plateau et je suis ravie de l'avoir à mes côtés, Olivier Ramallo, vous êtes chef de projet multi-exposition qualité de l'air intérieur de la direction santé confort, division qualité des environnements intérieurs du CSTB. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et vous allez nous présenter les travaux justement de l'OQAI sur le logement et plus particulièrement la deuxième vague d'observation en cours. Alors commençons, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement des travaux de l'OQAI sur le logement ?
En fait, les travaux de l'OQAI sur le logement ont commencé il y a 15 ans déjà, avec la première campagne nationale de qualité de l'air dans les logements, donc qui a été menée entre septembre 2003 et décembre 2005, qui a été menée dans un peu plus de 550 logements et qui était ensuite représentatif du parc de résidence principale.
Alors comment ça se passe concrètement quand vous parlez d'une campagne ? Donc vous installez des capteurs dans les logements, c'est ça ?
En fait c'est une enquête mais avec une forme particulière qui associe à la fois des questionnaires et puis de la mesure pour mieux connaître la qualité de l'air dans les logements.
D'accord. Alors du coup, vous disiez donc une première campagne. Quels ont été les résultats ? Qu'est-ce que vous avez mis en avant sur ces campagnes-là ?
Alors ce qu'on a mis en avant, c'est déjà d'établir une photographie. Parce qu'en fait, par rapport à l'air ambiant, la qualité de l'air intérieur reste toujours, encore aujourd'hui, assez méconnue. Et on ne disposait pas de données vraiment à l'échelle nationale. Donc ce qui a été mis en avant, c'est que il y avait à peu près une 10% de logements qui étaient multipollués. Ventilation pouvait présenter aussi des défaillances en termes de mise en œuvre, notamment lorsque il y avait des systèmes de ventilation mécanique, et que en fonction du mode d'aération dans les logements, le renouvellement de l'air n'était pas toujours adéquat par rapport au niveau d'occupation.
D'accord. Et alors du coup, donc concrètement, vous avez organisé ces opérations, vous disiez dans 500 logements.
Dans 567 logements, plus exactement.
D'accord. Ah oui, c'est un
sacré représentatif des 24 millions de parcs de résidence principale.
Alors comment vous faites ? Vous les choisissez comment, tous ces logements ?
Alors justement, en fait, c'est toute une procédure de tirage aléatoire. Alors pour cette première campagne qui avait été menée, on avait tiré au sort les communes. Au sein des communes, on avait tiré au sort les sections cadastrales. Et au sein de chaque section cadastrale, on avait tiré au sort ensuite les foyers fiscaux.
D'accord, sacré tirage au sort du coup.
Oui, tout repose sur le tirage au sort pour effectivement
panel le plus complet possible.
Exactement, et pour pouvoir ensuite déterminer la probabilité que chaque logement avait d'être tiré au sort, ce qui permet ensuite de remonter au parc complet.
Alors comment ça se passe là ? Je crois que vous avez donc entamé une deuxième vague d'observation, c'est ça ?
Oui. On a entamé effectivement une deuxième campagne nationale. Mm-hmm. Dans le but justement de connaître l'évolution de la qualité de l'air depuis 15 ans, en prenant en compte aussi les variations qui ont été faites depuis 15 ans, déjà en termes de réglementation, tout ce qui concerne en fait les réglementations thermiques, la construction des nouveaux bâtiments et leur rénovation. Donc il y a eu des changements qui ont été faits. Et donc le parc intègre déjà une partie de ces nouveaux bâtiments. Par ailleurs, il y a également un changement au niveau des habitudes.
Je crois que vous aviez une présentation, oui. Peut-être. Si vous voulez, on peut la lancer comme ça. Vous serez en appui.
Fait. Donc on a mis effectivement une... Et donc les habitudes de vie depuis 15 ans ont possiblement changé, ainsi que une attention un peu plus poussée des personnes portées à leur environnement, qui finalement peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. Et donc l'objectif aussi, c'était d'intégrer les nouvelles substances émergentes qui d'intérêt sanitaire,
oui, pour lesquelles l'exposition. On peut en parler justement. Oui. Dans la première vague, vous aviez certains types de substances que vous recherchiez.
Alors, on a mesuré les composés organiques volatiles, certains composés organiques semi-volatiles, les particules également,
donc plusieurs substances en plus. Et là, vous disiez donc pendant la campagne, vous en rajoutez. En fait, vous faites des mesures
plus spécifiques. Tout à fait. Pour cette campagne, comme pour la première également, nous avons mené une hiérarchisation sanitaire pour déterminer finalement quelles sont les substances prioritaires à regarder. Et notamment, il y a des substances émergentes aujourd'hui qui n'avaient pas été mesurées lors de cette première campagne. Donc cette campagne nationale Logement 2 va venir renforcer les données sur ces nouvelles substances qui sont d'intérêt sanitaire.
Merci. Allons-y alors.
Donc l'objectif de cette campagne nationale Logement 2, c'est de, comme je l'ai dit, d'avoir une idée de l'évolution de la qualité de l'air depuis 15 ans dans le parc des résidences principales en France, de déterminer aussi les niveaux d'exposition de la population à ces polluants émergents qui ont été jugés prioritaires sur la base d'une hiérarchisation sanitaire, ainsi que de mieux connaître la dynamique de la qualité de l'air intérieur dans les logements. C'est pour ça qu'on a mis également en place des micro-capteurs de qualité de l'air, donc dans le séjour, pour avoir une idée de la variation des substances dans l'air. L'objectif est également de cette campagne, c'est d'identifier les situations à risque. Donc, au travers justement des questionnaires relatifs au contexte extérieur, aux caractéristiques du logement, du ménage et des habitudes de vie et du ressenti. Ensuite également, on a des éléments sur l'état de santé des habitants. Et donc, l'objectif est également d'établir des liens entre la pollution de l'air et l'état de santé, ainsi que la perception et la connaissance des risques liés à la qualité de l'air intérieur, ces deux aspects étant menés conjointement avec Santé publique France.
Très bien. Alors du coup, comment s'organise donc cette deuxième vague d'observation ?
Alors cette campagne nationale Logement 2, elle concerne les résidences principales. Elle se déroule entre novembre 2020 et décembre 2022 en toute saison. Donc un échantillon de 600 logements est concerné. Alors pourquoi 600 logements ? C'est pour avoir une précision de 10% sur les percentiles de distribution des concentrations de composés organiques volatiles à l'échelle nationale.
Et donc là, comme la dernière fois, par tirage au sort, on va choisir les logements ?
Oui. Oui, je vais expliquer juste après. Effectivement, donc c'est un partenariat qui a été mis en place avec l'ADRES, donc la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ainsi qu'avec l'IRDES, donc l'Institut de recherche de documentation en économie de la santé,
vous a aidé à mettre en place cet échantillon.
Au travers de l'enquête européenne de santé, il y a eu 15 000 participants à cette enquête-là, qui ont été tirés au sort au travers des unités primaires. Alors les unités primaires, il faut savoir qu'en fait que la France est découpée en multiples unités primaires qui représentent en fait des groupements de résidences principales identiques, similaires.
D'accord.
Donc ces unités primaires ont été tirées au sort, et au sein de ces unités primaires, il y a eu un tirage au sort effectué au niveau des foyers fiscaux.
Okay.
Et sur ces 15 000 participants, on leur a posé la question, est-ce qu'ils souhaitaient être recontactés pour éventuellement participer à la campagne nationale logement ? Et sur ces 15 000, 3 700 ont accepté d'être recontactés. Et donc pour ces 3 700, ensuite, on les a recontactés en leur représentant plus en détail ce qu'on attendait d'eux au niveau de cette campagne nationale Logement 2, avec un objectif d'avoir 900 foyers qui participent. Et on en a eu 739.
Ah oui, C'est pour, un bon échantillon.
Voilà, c'est un bon échantillon. La campagne est organisée en deux vagues. Une première vague qui s'est déroulée entre septembre 2020 et octobre 2021. Donc, il vient à peine de se terminer. Mm-hmm. Dans lequel on a réalisé 297 enquêtes. On est un petit peu en deçà de l'objectif, mais on va se rattraper sur la deuxième vague qui commence
en janvier.
En janvier 2022.
Oui, ce qu'on voit sur votre tableau.
Jusqu'en décembre 2022, et qui va concerner 10 autres zones régionales.
Très bien.
Et donc voilà, je vous représente ici en fait la répartition des 739 accords au niveau de la France métropolitaine continentale. Oui, je l'ai pas dit, effectivement, la campagne ne concerne que la France métropolitaine continentale et pas la France entière.
D'accord.
Malheureusement. Et donc sur ces 739 accords, cela représente 389 communes. Et donc le taux d'accord finalement est un peu plus que 20% des foyers qui ont accepté de participer à cette campagne nationale de logement. Ce qu'on peut voir sur la carte, c'est qu'on a une assez bonne couverture géographique avec un découpage en 20 zones d'enquête. Et les zones d'enquête que vous voyez en vert sont les zones qui ont été enquêtées cette année justement. Entre novembre et octobre 2021. Donc il y a 17 équipes au total, hein, équipes d'enquêteurs qui mènent sur le terrain ces campagnes-là.
Oui, on leur dit, c'est extrêmement important, en plus qu'on est vraiment un panel de différentes régions, parce que la qualité de l'air intérieur dans les logements va s'appréhender différemment en fonction de l'endroit où on se trouve.
Oui, alors l'idée, effectivement, c'est d'être représentatif de la France à l'échelle nationale. Avec 600 logements, on ne pourra pas descendre en dessous. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça représente en fait une photographie avec des gros pixels. Donc, il est difficile de zoomer et d'avoir une idée de la qualité de l'air à l'échelle régionale, par exemple.
D'accord.
C'est pas l'objectif de cette campagne. L'objectif de cette campagne, c'est vraiment d'avoir une représentativité nationale.
Très bien.
Et l'enquête, en fait, elle se déroule en deux visites espacées de 7 jours d'intervalle, réalisées par deux enquêteurs. Et les pièces qui sont instrumentées sont la chambre de la personne de référence et le séjour principal, ainsi que les pièces de service dès lors qu'il y a un système de ventilation mécanique pour la mesure au niveau des bouches d'extraction et éventuellement les bouches d'insufflation. L'extérieur immédiat du logement est également instrumenté. Et ce qu'on va mesurer sont surtout des paramètres de confort, des substances qui avaient déjà été mesurées dans la première campagne nationale logement, et puis également des nouvelles substances. Donc à la fois avec des appareils qui mesurent en continu sur la semaine, des mesures qui vont être intégrées, donc c'est-à-dire qui vont cumuler soit en prélèvement dit passif, donc par diffusion, ou en prélèvement actif à l'aide de petites pompes de prélèvement, ou bien des prélèvements ponctuels qui vont aussi être réalisés pour avoir ce schéma complet. Et puis en parallèle, comme je l'ai indiqué, il y a également des questionnaires qui sont mis en place, qui sont complétés par les enquêteurs, administrés en face à face avec la personne de référence du ménage. Et puis il y a certains questionnaires qui sont laissés en fait entre les deux visites sur la semaine à remplir par les personnes du foyer.
Merci beaucoup. Alors du coup, à quoi ça sert ? Comment on raccroche toutes ces données là ? Toutes les données, en quoi elles vont être utiles, toutes ces données ?
Alors, c'est vrai que j'ai fait d'abord...
Encore mieux, oui, vous parlez un peu plus
vite. Voilà, j'ai fait un petit focus sur les questionnaires. Donc effectivement, on a différents questionnaires qui permettent d'avoir les caractéristiques du logement des ménages, à l'échelle également des caractéristiques des individus qui composent le foyer, des questionnaires descriptifs de chaque pièce du logement. L'idée étant d'avoir vraiment de collecter finalement les différents paramètres, les différents facteurs qui peuvent affecter la qualité de l'air intérieur, et puis également ce qu'on appelle des semainiers, c'est-à-dire l'évolution en fait sur la semaine d'enquête des activités qui ont été réalisées, parce que ces activités également peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air, ainsi que les questionnaires de santé qui sont laissés aux occupants. Et donc pour la mise en œuvre, en fait, pour illustrer un petit peu comment c'est mis en œuvre dans au niveau de la chambre. Donc vous avez un portoir que vous voyez sur la partie gauche, mm-hmm. Donc qui rassemble finalement les prélèvements les prélèvements diffusifs pour la mesure du CO2, des composés organiques volatiles, des aldéhydes, du dioxyde d'azote, du suivi de température et d'humidité relative. Et puis, c'est aussi au niveau de la chambre, on va mesurer l'activité volumique du radon et les moisissures qui se déposent au niveau d'une lingette électrostatique qui est disposée. Au niveau du séjour, on a des prélèvements à l'aide des pompes portatives. Ces pompes sont installées en fait dans un caisson insonorisé pour limiter à tout prix les nuisances auditives. Et donc, au niveau du séjour, sont mesurées les particules, les pesticides. Dans l'air, les composés organiques semi-volatiles dans l'air, ainsi que le radon, les composés organiques volatiles. Et c'est là aussi qu'est mis en place le capteur de qualité de l'air pour avoir un suivi un peu plus régulier.
On voit l'ensemble des choses qui sont, les substances qui sont recherchées, c'est incroyable. Ouais.
Et puis donc à l'extérieur, bon, vous avez vu, c'est un petit portoir qui mesure le dioxyde d'azote, la température et les composés organiques volatiles. Et donc, plus en détail, en fait, qu'est-ce qu'on recherche plus précisément. Donc, on mesure 84 substances qui sont issues d'une hiérarchisation sanitaire qui avait été menée précédemment pour choisir justement quelles étaient les cibles d'intérêt pour cette campagne nationale Logement 2. Donc, parmi ces 84 substances, il y a le dioxyde d'azote, les aldéhydes, 3 aldéhydes, 37 composés organiques volatiles, des composés organiques semi-volatiles, parmi lesquels des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des phtalates, donc qui sont des plastifiants qu'on retrouve dans pas mal de matériaux du bâtiment, des retardateurs de flamme, donc retardateurs de flamme bromés, des polychlorobiphényles, des alkylphénols, des muscles synthétiques, qui sont autant de produits qu'on retrouve dans beaucoup de produits qui sont utilisés au quotidien. On mesure également les particules, le radon. Donc, je l'ai pas dit, mais c'est le radon est mesuré en partenariat avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et les moisissures qui sont aussi mesurées en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille. Par rapport à la campagne nationale logement 1, on a vraiment fait le focus aussi sur les pesticides. Donc beaucoup de pesticides sont recherchés dans l'air, et donc c'est des pesticides qui ont été identifiés par l'ANSES et plus précisément par le comité de phytopharmacovigilance, qui ont également établi une hiérarchisation spécifique par rapport à ces familles.
Oui, parce que souvent on se dit les pesticides c'est que dehors, mais non, en fait ça peut aussi.
Non, on en retrouve également à l'intérieur. J'ai moi-même un chat, et donc j'utilise des colliers anti-puces aussi. On retrouve
des
traces.
On n'y pense pas en fait à ce genre de choses. Donc énormément de polluants, vous disiez. Voilà. Et donc 8 laboratoires qui...
8 laboratoires sont partenaires également de cette campagne-là. Et des pesticides qu'on va aussi rechercher dans les poussières collectées. Parce que les poussières, quelque part, c'est aussi la mémoire du logement. Et donc on a aussi une... et comme l'a dit Valérie Pernet-Lajolie précédemment, c'est aussi une voie d'exposition à travers l'ingestion de tout ce qu'on peut accumuler au niveau des doigts et ce qu'on peut porter à la bouche.
Bien sûr. Donc plus de 170 polluants différents qui sont examinés.
Exactement. Donc c'est beaucoup plus que la première campagne nationale de logement. Et donc pour répondre à votre question précédente, je reviens à votre question. Donc
à quoi ça va servir toutes ces données et comment on va les exploiter derrière?
Donc ces données-là, en fait, tout d'abord, on va s'en servir pour établir les distributions nationales. Mm-hmm. Donc à l'échelle du parc de 30 millions, de 29 millions plutôt, de résidences principales en France en 2020. Et puis avoir aussi une exploitation statistique de ces données pour établir les variations saisonnières, établir également les caractéristiques des logements qui sont dits multipollués, c'est-à-dire qui présentent des occurrences multiples de plusieurs substances à la fois, qui sont particulièrement polluées mais dans plusieurs substances.
D'accord.
Et puis donc également rechercher les déterminants, c'est-à-dire les facteurs qui vont venir expliquer pourquoi tel ou tel polluant est plus présent dans les logements que d'autres. Et l'ensemble finalement de ces données va servir déjà à alimenter le plan national santé environnement 4.
Oui, qui a été évoqué tout à l'heure aussi. Ouais.
Exactement, et dont la campagne nationale logement fait partie, donc notamment l'action 13. Ce sont des données aussi qui vont servir à élaborer des valeurs guides. Donc pour l'ANSES fait un travail chaque année d'établir des valeurs guides pour chaque substance. Et donc, les données de l'Observatoire viennent alimenter les travaux de l'ANSES conjointement aux études toxicologiques. Et puis surtout, c'est une base finalement de référence qui va permettre aux futures études de venir se comparer par rapport aux données nationales au niveau de la France. Enfin, c'est également des données qui peuvent servir à construire des indices de qualité de l'air. Comme je vous l'ai dit, on mesure plus de 170 polluants. C'est toujours difficile d'essayer de synthétiser l'ensemble de cette information et de dire finalement, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Et donc, tout l'objectif de ces indices-là, c'est de pouvoir essayer justement un exercice particulièrement difficile. C'est vraiment de dire dans quelle mesure...
Faut se concentrer sur celui-ci ou plutôt celui-là.
Oui, et de dire dans quelle mesure ce logement est particulièrement
pollué
ou à prendre en compte.
Très bien.
Et justement, au niveau de l'indice, ces indices-là, c'est d'essayer de prendre l'impact des mélanges, comme l'avait évoqué l'ANSES tout à l'heure.
Et on peut le noter quand même que ces travaux-là sur le logement et la façon dont vous procédez, c'est quelque chose que vous avez lancé en France. Hein, c'est quelque chose qui est assez inédit aussi dans la.
Il y a très peu de pays qui ont mené ce type d'initiative. L'Angleterre, l'Allemagne en ont réalisé et continuent à en réaliser. Mais finalement, c'est vrai que c'est une initiative qui est peu retrouvée dans d'autres pays.
Alors je crois qu'on a réussi à avoir. Vous aviez terminé sur votre présentation ou vous aviez peut-être.
Je voulais juste rajouter effectivement que derrière l'objectif aussi, c'est d'identifier les situations à risque et puis bien sûr de croiser ces éléments de qualité de l'air avec les données de santé parce que là encore. Tout ce qui est lié à l'exposition dans notre environnement intérieur au quotidien, on a très peu de connaissances finalement sur l'impact à long terme sur notre santé.
Très bien, mais merci beaucoup. Merci Olivier, c'était extrêmement clair et passionnant. Mais justement, donc on parlait un peu de cette prise en compte au niveau international. Alors je suis très heureuse de recevoir, nous nous connectons avec le docteur Maria Nera. Vous êtes directrice du département santé publique et environnement à l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, voilà, quelle importance a la qualité de l'air intérieur, quelle importance elle a dans les travaux de l'OMS aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette vision un petit peu internationale? On le disait tout à l'heure, Olivier nous le soulignait, voilà, la France est assez en avance là-dessus. Il y a très peu de pays qui travaillent spécifiquement sur la qualité de l'air intérieur dans les logements. Est-ce que vous nous le confirmez?
Oui, effectivement. Et d'abord, je voudrais féliciter d'une façon très chaleureuse les travaux que la France porte déjà et va porter encore plus. Parce que pour nous, à niveau international, c'est très important de pouvoir utiliser toutes ces informations aussi dans tous nos travaux, après dans l'incorporation dans les travaux scientifiques. Donc vraiment, on sait que c'est un travail énorme ce que la France est en train de faire. On est très, très intéressés à partager les résultats de tout ça. Pour nous, ça va être très important aussi pour voir l'impact sur la santé, qu'elle détermine, comme très bien disait le présentateur, pourquoi on arrive à avoir des maisons qui sont si polluées, quelles sont les déterminantes. Probablement, il va être lié à des conditions socio-économiques, mais surtout, ces résultats, pour nous, c'est très important pour les incorporer à les différentes recommandations et travaux scientifiques. Pour mettre peut-être une note de contexte, très triste, mais c'est quand même la réalité, chaque année, on a 7 millions de morts prématurées liées à la mauvaise qualité de l'air. C'est vrai que c'est la mauvaise qualité de l'air à l'intérieur, à l'extérieur, et que pour nous, la contamination de l'air intérieur dans les pays moins favorisés du point de vue économique, c'est surtout le fait qu'ils signent encore avec des feux ouverts, je veux dire, comme un peu de, comme dans la préhistoire, non, où on utilisait du bois ou du charbon végétal pour cuisiner, ça contamine énormément. C'est pas les conditions qu'on a en Europe, mais quand même en Europe, on a encore tous les ans 400 000 morts liées à la mauvaise qualité de l'air intérieur et extérieur. Donc
c'est énorme, hein, c'est un chiffre énorme.
Énorme. Et en fait, c'est un des problèmes de santé publique les plus importants auxquels on est confronté aujourd'hui, la qualité de l'air, la pollution de l'air qui est causée dans la plupart des circonstances par les types d'énergie, les choix qu'on fait de l'énergie des sources de combustion. Donc, normalement, on fait la combustion des combustibles fossiles, donc le pétrole ou les gaz ou les charbons, et là ça contamine énormément, et on doit faire une transition énergétique le plus vite possible parce que notre santé en dépend énormément aujourd'hui.
Est-ce que vous observez quand même une prise de conscience quand même de plus en plus importante sur la qualité de l'air intérieur? En plus, bon, là on est dans un contexte de pandémie où on parle d'un virus aéroporté, etc. On nous dit aux gens, ouvrez vos fenêtres. Voilà, c'est vraiment, est-ce que c'est un point, comment on peut faire avancer au niveau mondial? Comment vous travaillez là-dessus à l'OMS?
Alors, d'un côté, c'est vrai qu'il y a un changement dans les prises, dans la sensibilisation, la connaissance du problème. Au moins, nous, on veut croire ça parce que ça fait quand même des années qu'on y travaille sur le problème de la qualité de l'air qu'on respire. Comment, il y a des années, on a fait, enfin, toute la communauté professionnelle sanitaire a fait une grande lutte pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement, parce que c'est quand même quelque chose qui va conditionner énormément notre santé. Aujourd'hui, c'est la même chose pour la qualité de l'air qu'on respire, soit à l'intérieur, là où on vit, où on travaille, où on va à l'école, soit à l'extérieur, dans nos villes, et dans l'air qu'on respire tous les jours et qu'on n'a pas les choix, en fait. Alors, s'il y a une augmentation de la sensibilisation, c'est vrai que la pandémie aussi nous a permis de visualiser encore plus l'importance de l'air qu'on respire. Je crois que tout le monde s'est rappelé très bien que pendant le temps du lockdown, enfin quand on était enfermé, il y a des endroits pour donner des sessions plein dehors de l'Europe, hein, mais en Europe aussi, on a vu à New Delhi par exemple, à New Delhi en Inde, les gens ils arrivaient à voir le ciel bleu, chose qui pour eux c'est quand même quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc quand on arrête les trafics et tout ça, la qualité de l'air s'améliore et c'est impressionnant. En Europe, on a eu aussi plein d'exemples. Évidemment, on ne veut pas arriver à ça. On ne veut pas arriver à paralyser l'économie pour respirer. Mais il y a plein de mesures qu'on doit prendre et pour changer les modes de vie, les styles de vie par rapport à la production, la consommation et les résidus, les recyclages comme on fait. Ça c'est une décision très importante, mais aussi et surtout, comme je disais tout à l'heure, il y a deux transitions qui sont très importantes pour protéger notre santé. Une, c'est la transition à l'énergie propre, non polluantes et donc arrêter de faire la combustion des combustibles fossiles et surtout arrêter aussi de donner des subsides, enfin des compensations économiques à ces fossiles, à ces énergies fossiles et faire la transformation au plus vite possible à des énergies non polluantes. L'autre transition qui est critique, c'est la transition dans nos villes urbaines, donc c'est-à-dire essayer de faire des villes où on puisse respirer un air qui ne tue pas, qu'on puisse marcher, qu'on puisse avoir une vie moins sédentaire et puis une ville où les citoyens peuvent être les centres et pas, enfin, que toute la planification soit autour du confort et de la protection, du bien-être des citoyens et pas des voitures. Mais non, on s'en occupe des voitures comme si on était nos fils préférés et on a beaucoup plus de parking et d'espaces verts dans certaines villes et on fait tout pour s'assurer que la voiture est là, tandis qu'on ne fait pas assez pour s'assurer que les individus qui vivent dans les villes puissent avoir une vie moins polluée, respirer moins polluée, marcher un peu, avoir beaucoup plus d'interactions sociales aussi. Et là, la transition de l'air intérieur et de s'assurer que ça, c'est aussi connu par les gens, que c'est pour leur santé, que ces enquêtes sont fantastiques pour avancer dans ça. C'est très important aussi.
Oui, parce que vous le disiez justement, voilà, si on resserre sur l'univers du logement, finalement, on se rend compte que travailler la qualité de l'air intérieur, c'est sensibiliser énormément aussi l'occupant, en fait, finalement. Donc, vous l'avez souligné aussi, Olivier. Donc, finalement, il y a des choix de meubles spécifiques, parce qu'il y en a certains qui peuvent avoir des composants volatiles. Enfin, on a eu beaucoup d'avancées là-dessus en France. Hein, Olivier, vous me le confirmez. Hein.
Oui, tout à fait.
Et du coup, vous le disiez, madame, comment on peut... C'est grâce à des outils et des éléments que peuvent donner justement l'Observatoire de la qualité de l'intérieur qu'on va faire avancer cette sensibilisation.
Absolument, et c'est pour ça à nouveau, pour nous, cet effort, c'est énorme et ça va nous servir, pas seulement en France, ça va être utilisé bien sûr dans les contextes européens, dans les contextes globaux. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont pu aller si loin dans ce type d'enquête. Pour nous, c'est très, très important aussi pour expliquer que c'est une question de santé, c'est pas seulement une question d'intromission dans la vie des gens. Il n'y a rien de plus privé que les foyers, non? Ou les écoles, ou enfin, l'endroit où travaille. C'est pour faire des recommandations qui vont protéger encore plus la santé. Ce n'est pas non plus pour culpabiliser certains endroits ou certains logements où les conditions ne sont pas bien. C'est pour que les gens connaissent aussi. Je me rappelle encore il y a quelques années, la tradition dans un pays comme le mien d'origine, en Espagne, quand une maman va avoir un bébé, la chose qu'on fait souvent, c'est faire la peinture de la chambre du bébé et faire respirer à ce bébé quand il arrive toutes ces substances que des fois, enfin les peintures, les contenus de peinture aujourd'hui, ça a beaucoup évolué dans les pays européens, mais d'autres, il y a encore des fois, il y a même du plomb dans la peinture. Donc, des choses comme ça que les gens, ils les font parce qu'ils savent pas. Et ils savent pas certaines recommandations qui pourraient améliorer notre qualité de vie, mais non, la ventilation avec le Covid a été extrêmement important. Ventilation dans des endroits qui sont très pollués, c'est un peu difficile aussi à recommander. Donc, et puis la sensibilisation sur les radons, où on peut prendre des mesures à niveau des responsables politiques. C'est-à-dire qu'on peut vraiment améliorer nos conditions de vie, mais pour ça, il nous faut l'information, il nous faut les statistiques, il nous faut comprendre beaucoup plus qu'est-ce qui conditionne la qualité de l'air intérieur, pour nous aider aussi à sensibiliser les occupants et pour les expliquer comment ça va avoir un impact positif dans leur santé, améliorer leurs conditions de travail aussi. Quand on parlait des pesticides, il y a des gens qui travaillent et puis ça amène les vêtements du travail à la maison. Donc, en fait, là aussi, il y a une exposition. L'air intérieur dépend aussi de la qualité de l'air extérieur. Donc, il faut continuer à améliorer la qualité de l'air extérieur et pousser sur les maires et les preneurs des décisions pour que ça avance encore beaucoup plus vite de ce qu'il fait maintenant.
Merci beaucoup. Donc c'est vrai, il faut vraiment continuer à répandre la bonne parole et montrer à l'OMS comme la France et peut-être par ses travaux apporte énormément de choses. Alors je vais me tourner vers les questions du chat. Alors nous avons notamment une question de Philippe. Alors je pense que ça s'adresse plutôt à vous, Olivier. Les débits d'air de ventilation sont-ils mesurés pendant la campagne, ainsi qu'un descriptif du système de ventilation et de son état ?
Oui. Oui, effectivement, on va mesurer les débits d'air dès lors que le logement est équipé d'un système mécanique de ventilation. Il y a des mesures de débit d'air qui sont prévues. Et effectivement, au niveau du questionnaire, c'est un des points importants, effectivement, d'essayer de qualifier quel est le système de ventilation mis en œuvre ou l'absence de système de ventilation.
Et du coup, ça vous permet aussi de voir quel type de technologies sont peut-être plus pertinente ou voir s'il y a des éléments qu'il faut changer peut-être parce qu'on pensait la ventilation d'une certaine manière il y a peut-être 20 ans justement et quand on est sur des logements anciens est-ce que c'est des choses comme ça, on voit un peu l'évolution aussi des typologies de ventilation intéressantes à mettre en œuvre.
Alors oui, effectivement, ça va nous permettre de mettre en regard par rapport à nos premières observations il y a 15 ans, de voir quelles sont les différentes typologies qui existent aujourd'hui au niveau des bâtiments, et puis aussi au niveau des bâtiments rénovés, finalement, quels sont les choix qui ont été mis en œuvre.
Alors une petite question également, alors qui me touche aussi. Alors j'ai honte de le dire, mais je ne le dirai pas. Quels sont les polluants qui sont liés au tabagisme ? Quelle proportion de logements peuvent être concernés ?
Alors ça, c'est vraiment lié à l'activité de chacun. Donc effectivement, enfin c'est un des points importants qu'on va chercher à identifier finalement, et on va retrouver en fait la marque entre guillemets du tabagisme dans la qualité de l'air intérieur au travers notamment des mesures de particules, parce que ça se voit tout de suite. Un logement avec des fumeurs qui fument à l'intérieur du logement, ça ressort de
beaucoup
manière
plus
caractéristique au niveau des particules. Et puis il y a d'autres composés aussi qui vont ressortir, mais essentiellement les particules.
Bon, on le rappellera toujours autant de toute façon. Aérons, ouvrons nos fenêtres. Alors peut-être une question également dans le chat pour Maria. Merci d'être encore avec nous. Est-ce que l'OMS a prévu de mettre à jour les valeurs guides de qualité de l'air intérieur?
Et effectivement, on vient de sortir il y a quelques semaines les recommandations guides de qualité de l'air en général, non, mais c'est surtout de l'air extérieur, mais ça conditionne l'un et l'autre beaucoup. On a aussi des recommandations sur l'air intérieur, mais c'est vrai que c'est surtout focalisé sur quel type de combustion, enfin de sources d'énergie on va utiliser à l'intérieur de la maison. Il y a des recommandations après individuelles pour certains de ces polluants, mais c'est sûr qu'on va réviser régulièrement et faire des actualisations. Il y a par rapport au tabac, ce qu'on respire à la maison de façon passive aussi, quand il y a un fumeur, les autres ils vont souffrir, ça c'est quand même un problème de santé publique terrible. Et la voix des professionnels de la santé doit se faire beaucoup plus présente de plus en plus, parce que maintenant, il y a beaucoup de spécialistes et de médecins qui travaillent dans la médecine respiratoire ou spécialistes en asthme, pédiatres ou autres, qui voient des enfants avec d'asthme et qui font un traitement pour ces cas d'asthme. Mais sans aller un peu plus loin, de dire dans quelles conditions ils vivent ces enfants. Je veux dire, ils font les traitements pour essayer de traiter les cas, mais il faut aussi voir qu'est-ce qui a déterminé et pourquoi il fait des crises souvent d'asthme. Et souvent, la réponse se trouve aussi dans la qualité de l'air intérieur ou la qualité de l'air dans la rue, ou l'endroit où cet enfant vit. Donc la voix des professionnels de la santé et l'argument santé est de plus en plus important.
Alors on le rappelle quand même, ces guides là, on peut les retrouver en ligne, j'imagine.
Tous nos travaux sont toujours en ligne de façon totalement transparente et accessible et à qui voudrait les savoir. Des fois même en plusieurs langues, pas tous les documents malheureusement, mais on essaye d'avoir les documents au moins 5 langues différentes.
Bon, alors, comme la France est en pointe sur ce sujet, je suis sûre que les guides sont traduits en français, je l'espère. Alors j'ai une nouvelle question qui me vient sur mon petit écran, une question pour Olivier. Est-ce que le plomb est mesuré dans la campagne logement?
Non. Il n'y a pas le plomb de mesurer dans la campagne logement.
Alors c'est vrai que c'était un composant qui avait quelques années, c'est vrai, on ressortait beaucoup, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le plomb. On sait que c'était pas, voilà, on a changé les canalisations, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de peinture au plomb aussi ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que le point a été très avancé déjà, donc peut-être c'est pour ça que c'est pas forcément mis en avant.
C'est vrai qu'on a fait le choix de pas prendre en compte la mesure des métaux, parce qu'en fait on a considéré au niveau de la hiérarchisation que on disposait déjà de données suffisantes par rapport à ces substances-là, et on a préféré plutôt mettre l'accent sur les substances émergentes.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Ah, alors attendez, j'ai aussi encore une question qui arrive. Ah oui, c'est vrai, un point intéressant parce que, alors vous parliez, Maria et vous, Olivier, du tabac. Est-ce qu'on a déjà des retours sur ce qui concerne les cigarettes électroniques?
Non. Non, il y a des études scientifiques qui sont menées. On a pris en compte ces pratiques. Donc, c'est des questions qui sont posées dans le cadre de la campagne nationale logement.
Oui, c'est intégré quand même.
C'est intégré, voilà. Et donc, on va essayer d'avoir des éléments là-dessus. Alors, sachant que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que les résultats de cette campagne nationale logement 2 sont prévus pour 2023.
Ne vous inquiétez pas, c'est la question que j'allais vous poser pour terminer. Peut-être, Maria, voilà, peut-être un dernier mot. Il nous reste une minute. En tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Hein.
Non, au contraire, merci beaucoup. Et puis, Olivier, bravo. Et on travaillera en contact parce qu'effectivement, pour nous, c'est fondamental, ces travaux que vous faites pour la sensibilisation. Encore une fois, sur la qualité de l'air intérieur, à part les guidelines, on a un autre document qui s'appelle Household Guidelines. Donc, la qualité, c'est pas seulement la qualité de l'air, mais les recommandations pour les foyers. Et là, il y a beaucoup sur les tabacs et sur la qualité de l'air intérieur aussi. Donc, pour ceux qui cherchent dans le web, de faire ces recherches-là aussi. Et merci encore, c'est super important à niveau global.
Merci beaucoup.
Merci
Olivier,
beaucoup.
Un dernier mot peut-être? Peut-être la recommandation, si, Maria aussi pourrait nous l'aider, pour vous, la recommandation au sein d'un logement pour améliorer sa qualité de l'air intérieur?
Déjà pour un fumeur, éviter de fumer dans son logement et plutôt aller sur le balcon à l'extérieur, c'est déjà ça de gagner.
Et alors au-delà des fumeurs, on va juste peut-être ouvrir la fenêtre régulièrement.
Oui, bien sûr. Aérer son logement, améliorer son renouvellement d'air ne peut que limiter en fait l'exposition à la fois aux polluants intérieurs. Mais, alors après, il faut bien sûr travailler sur la qualité de l'air extérieur pour améliorer bien aussi les conditions de vie à l'extérieur.
Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Olivier Ramalou du CSTB. Merci docteur Nera de l'OMS. Ainsi s'achève notre session logement et nous retrouvons dans un petit quart d'heure pour notre session école. Apprendre dans un environnement sain et confortable et encore une fois avec plein de données très intéressantes à partager. À tout à l'heure.
Les 20 ans de l'OQAI.